Jean-Pierre Jallet, que vous connaissez certainement pour ses livres sur le tiers-monde, pillage du tiers-monde, a bien voulu traiter un problème qui, je suis sûr, vous intéresse parce qu'il est de grande importance. Il entre parfaitement dans le cycle économique, critique de l'économie politique, critique de l'économie capitaliste, puisqu'il s'agit du pillage du tiers-monde. D'ailleurs, c'est le titre du livre, d'un de ses livres, il a écrit Le pillage du tiers-monde. Et alors, plus pas le sujet qu'il va traiter ce soir, c'est tiers-monde et matières premières, c'est-à-dire l'exploitation du tiers-monde à partir de l'étude de l'exploitation des matières premières. Alors, je lui donne tout de suite la parole, son exposé.
Le problème des matières premières du tiers-monde, jusqu'à il y a un peu plus de 2 ans, était resté une affaire de spécialistes. Mais, à la fin de 1973, brutalement, les producteurs de pétrole du tiers-monde, d'une part, relevaient les prix du pétrole brut dans une proportion qui allait de 1 à un peu plus de 3, et d'autre part, engageaient, pas du même mouvement, mais dans un délai de quelques mois, partout, des processus de nationalisation des puits de pétrole dans tout le tiers-monde pétrolier, qu'il s'agisse du Moyen-Orient, qu'il s'agisse de l'Afrique, qu'il s'agisse du Venezuela en Amérique latine, etc. Presque aussitôt après, très vite après, le Maroc, premier exportateur mondial de phosphate, relevait le prix de ses phosphates brutalement dans la proportion de 1 à 5. Et dans les mois qui ont suivi, c'est-à-dire dans le début de 1974 et au cours de l'année 1974, le plus grand nombre des matières premières en provenance du tiers-monde ont vu leur prix s'élever d'une façon très différente selon les cas, mais d'une façon générale s'élever rapidement et atteindre dans quelques cas des taux qu'ils n'avaient jamais atteints dans le passé. Alors à ce moment-là, le problème des matières premières du tiers-monde est brusquement devenu un problème public. D'autant plus que les gouvernements dits occidentaux, et en particulier le nôtre, ont crié comme des écorchés, au sujet du pétrole en particulier, accusant les pays du tiers-monde producteurs de matières premières énergétiques ou industrielles d'être l'élément essentiel. On a même soutenu au début qu'il constituait la cause principale du développement de la crise et en particulier du développement d'une inflation qui, à cette époque-là, en effet, s'activait vigoureusement. Je reviendrai sur tous ces problèmes plus en détail tout à l'heure, mais je pense qu'il faut d'abord situer, par quelques données concrètes, l'importance des pays du tiers-monde au regard des pays capitalistes industrialisés en ce qui concerne les matières premières. D'une façon juste mais approximative, juste mais grossière si vous voulez, je puis vous dire que depuis pas mal d'années, et en tout cas aujourd'hui, on peut dire que l'ensemble des pays du monde capitaliste développé ou industrialisé, c'est-à-dire englobant, soyons concrets, englobant en Amérique les États-Unis et le Canada, en Europe, toute l'Europe occidentale, c'est-à-dire à l'exclusion de l'Union soviétique et des démocraties populaires, et dans l'extrême-orient, le Japon, qui est devenu une grande puissance économique, cet ensemble du monde capitaliste industrialisé dépend du tiers-monde pour environ 50% de son bilan énergétique global. Il dépend du tiers-monde pour environ 35% des besoins en fer de sa sidérurgie. Pour environ 58-60% aujourd'hui de ses besoins en bauxite, minerai d'aluminium, métal qui a connu une expansion fantastique dans la période relativement récente, puisque la consommation mondiale de l'aluminium en 1969 était exactement 40 fois plus importante qu'elle ne l'était 40 ans avant, c'est-à-dire en 1929. Et là, la dépendance du monde industrialisé par rapport au tiers-monde est de l'ordre, je le dis, de 58-60%. La dépendance de ce monde industrialisé capitaliste est de 85% pour des minerais secondaires, mais essentiels pour la fabrication des aciers spéciaux, que sont le chrome, le manganèse et un autre, l'antimoine. Dépendance de 70% pour le cobalt, lui aussi important pour les aciers spéciaux. Dépendance de l'ordre de 85% pour l'étain et enfin d'environ 40% pour le cuivre. C'est dire que toute la puissance industrielle de ce monde capitaliste développé et impérialiste n'existe que par un apport décisif et quelquefois quasi total de matières premières en provenance des pays du tiers-monde. Pourquoi le monde des pays qu'on appelle riches est-il si dépendant des fournitures du monde qu'on appelle pauvre? Je pense que très brièvement, un rappel historique peut nous permettre de mesurer les raisons de cette insuffisance de matières premières globalement de l'ensemble des pays développés. D'abord, il y a eu au point de vue énergétique, au début de ce siècle, la substitution du pétrole au charbon. Or, les pays développés, sauf quelques découvertes récentes en Alaska, en mer du Nord, etc., ont un pourcentage insignifiant de la production mondiale de pétrole, à l'exclusion des seuls États-Unis d'Amérique, qui demeurent le premier producteur mondial. En ce qui concerne le fer, la France, par exemple, est un pays qui a encore des réserves considérables de minerais de fer en Lorraine. Mais ce minerai de fer n'est plus utilisable pour des raisons capitalistes, des raisons de rentabilité. Il n'a qu'une teneur de 35% en fer et il est phosphoreux. Et depuis le temps qu'on l'exploite, il faut aller de plus en plus profond et avec des galeries de plus en plus longues. Alors qu'apparaissent dans un grand nombre de pays du tiers-monde des minerais de fer titrant 60, 65 et même 70 et 72% en fer et qui ne sont pas phosphoreux et qui sont dans des lieux très facilement exploitables. D'autre part, il y a des mines, des gisements qui s'épuisent ou qui, importants hier dans un monde peu industrialisé, sont devenus faibles aujourd'hui dans un monde super industrialisé. C'est le cas, par exemple, de la France au regard de la bauxite, minerai d'aluminium. La France a été pendant très longtemps et de très loin le premier producteur mondial de bauxite. Le nom bauxite, du reste, est un nom français, c'est venant du village de Beau en Provence, où existent toujours des gisements relativement importants de minerai d'aluminium. Or, aujourd'hui, la France ne produit qu'environ 5% de la production mondiale, c'est-à-dire une production extrêmement modeste et qui est devenue insuffisante pour les besoins français eux-mêmes. Dans le domaine du manganèse, la France a été pendant très longtemps également le premier producteur mondial. Aujourd'hui, le manganèse n'existe même plus dans les statistiques non seulement internationales mais françaises. Il n'y a plus que des traces, des poussières en France de manganèse. D'autre part, certains pays réputés extrêmement riches comme les États-Unis d'Amérique, qui sont incontestablement beaucoup plus riches en matières premières que le reste du monde capitaliste développé, ne sont pas aussi riches qu'on le pense et en toute matière. Par exemple, au regard de la bauxite, les États-Unis sont terriblement déficients et doivent importer environ les 9 dixièmes de leurs besoins en bauxite. Une commission du Congrès américain, il y a une douzaine ou peut-être quinzaine d'années, s'est préoccupée de ce qu'ils appellent les matériaux rares ou stratégiques, c'est-à-dire ceux qui sont employés dans les industries de pointe, comme l'informatique, l'aviation, et puis les fusées, l'espace, etc. Ils en ont dénombré, je cite de mémoire, je ne crois pas me tromper, 72 matières rares ou stratégiques. Et cette commission a conclu, je globalise un petit peu les résultats, que pour environ la moitié de ces 72 matières ou minerais rares ou stratégiques, les États-Unis étaient non seulement déficients, mais n'en détenaient absolument pas. Par conséquent, pour ce qui constitue encore aujourd'hui un élément fondamental de la puissance économique, stratégique et par la même politique des États-Unis, il y a une dépendance d'environ 50% des besoins des États-Unis par rapport aux fournitures de toute une série de pays du tiers-monde. Je pourrais poursuivre longtemps sur cette donnée, mais je veux aller relativement vite. Je dois dire que cette dépendance des pays industrialisés s'est trouvée considérablement accrue du fait même aussi et surtout du considérable développement précisément de l'industrie des pays en question. Et ce développement, puisqu'il était de mode de type capitaliste, entraînait, je vous le signale simplement pour mémoire car on en a beaucoup parlé ces temps derniers, entraînait un gaspillage considérable des ressources et en particulier des ressources en provenance du tiers-monde. Pourquoi en particulier des ressources en provenance du tiers-monde ? Pour deux raisons. Deuxièmement, c'est qu'il y avait des réserves qui étaient jugées comme considérables, et c'est vrai qu'ils sont toujours valeurs aujourd'hui, dans un avenir mettant de 25 ou 30 ans. Il n'y a aucun problème à se poser au regard de l'importance des réserves des principales matières premières industrielles et énergétiques dans le tiers-monde. Et surtout, ces matières premières du tiers-monde étaient d'un prix de revient considérablement plus bas que ne l'étaient les mêmes matières quand elles provenaient concurrentiellement des pays capitalistes développés. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure au passage en ce qui concerne le pétrole et d'autres produits. La conséquence de cet état de choses brossé très sommairement, c'est que l'ensemble du monde capitaliste s'est trouvé de plus en plus coupé en deux gros morceaux. Je schématise, mais je schématise parce qu'il faut toujours schématiser dès qu'on veut dire des choses qui aient une valeur d'ensemble, mais ce schéma n'est nullement contraire à la réalité. D'une part, un ensemble de pays, ceux qu'on appelle précisément les pays capitalistes industrialisés, qui ont connu un développement industriel énorme au XIXe siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale, une période de creux de vague entre les deux guerres mondiales, et ensuite, vous le savez, depuis 1945, ce qu'on a appelé la deuxième révolution industrielle qui a permis à l'ensemble de ces pays de connaître une croissance capitaliste industrielle d'une énorme portée. Alors ces pays-là se sont donc de plus en plus spécialisés dans le travail de la transformation industrielle des matières premières, une transformation de plus en plus élaborée avec la révolution scientifique et technique de ces deux ou trois dernières décennies. Et en même temps, ils se sont spécialisés, grâce à l'accumulation capitaliste qui résultait de cette super-industrialisation, dans l'exportation de capitaux dans les pays du tiers-monde, qui devaient fournir à ce monde industrialisé, laissant une part très importante des matières premières dont il avait besoin. Or, les faits montrent que, dans tous les cas que je connaisse en tout cas, les exploitations d'extraction de matières premières, quelles qu'elles soient, en Amérique latine, en Afrique, dans le sud-est asiatique ou en Indonésie ou ailleurs, ont toujours été faites avec des apports généralement exclusifs et quelquefois partagés avec des apports de capitaux publics locaux, de capitaux en provenance des pays capitalistes développés et grâce à l'accumulation capitalistique qui est une des caractéristiques du système capitaliste. Par conséquent, un ensemble de pays qui se spécialisent à l'échelle mondiale en producteurs de produits très élaborés, industrialisés, producteurs et exportateurs pour le monde entier et en exportateurs de capitaux pour le monde capitaliste tout entier également. D'un autre côté, un autre groupe de pays, qu'on appelle pays pauvres, pays sous-développés, tiers-monde, etc., disons tiers-monde pour simplifier, quoique ce concept, ce terme, soit terriblement mystificateur, un ensemble de pays que l'histoire économique et politique du monde a cantonné également dans un rôle de pourvoyeur de matières premières ou de produits de base Produit de base ou produit primaire étant un terme plus général englobant à la fois les matières premières et un certain nombre de grands produits de consommation que nous consommons tous, comme du café, du thé, des bananes, du cacao, etc., etc. Les pays du tiers-monde en question, étant cantonnés dans un rôle de producteurs de produits primaires, et la transformation ou la consommation, lorsqu'il s'agit de produits alimentaires, de ces produits primaires étant réservée à d'autres, il en est résulté que dans ces pays-là, un type d'économie effroyablement déformé parce que commandé de l'extérieur. Le développement de ces pays n'était pas commandé, conçu, organisé et exécuté en fonction des besoins des populations, en aucune façon. Tout était commandé, dirigé, organisé en fonction des besoins extérieurs du monde capitaliste industrialisé. C'est ce qu'on appelle, ce que les spécialistes appellent des économies exocentrées, ce qui est un mauvais terme à mon avis, mais enfin, c'est-à-dire centré vers la satisfaction de besoins extérieurs. Économie exploitée également, car les capitaux productifs des matières premières en question, étant pour l'essentiel des capitaux étrangers, réalisaient des bénéfices dans les pays du tiers-monde, et ces bénéfices étaient dans la proportion des 9 dixièmes environ, 9 dixièmes est un pourcentage approximatif mais très proche de la réalité moyenne, réexportés dans les pays d'origine des capitaux où à leur tour ils participaient à l'accumulation du capital dans les grandes puissances industrielles. Il en résultait pour les pays du tiers-monde une impossibilité quasi insurmontable à se développer. Deux chiffres vous le diront, si vous voulez, d'une manière très synthétique, parce que pour l'instant je continue à aller vite. Vous connaissez tous sans doute ce que signifient les mots épargne nationale. L'épargne nationale d'un pays, très grossièrement parlant, c'est ce que dans une année donnée, on peut prélever sur tout ce que le pays a produit dans cette année pour le mettre de côté et le réinvestir pour la croissance ou le développement économique. Eh bien, d'après les statistiques des Nations Unies, pour 4 années dont j'ai fait la moyenne, je ne me souviens plus de mémoire des 4 années en question, mais ça devait se situer entre 1965 et 1969 approximativement, ou 64-68, alors que l'épargne générale, l'épargne nationale de l'ensemble des pays capitalistes développés ressortait à un peu plus de 22%, l'épargne générale de l'ensemble des pays du tiers-monde ne s'élevait qu'à 15%. Dans ces conditions, vous comprendrez, rien qu'avec ces deux chiffres extrêmement caractéristiques, que le fameux problème du rattrapage des pays capitalistes industrialisés par les pays du tiers-monde est absolument et rigoureusement impossible, puisque sous cette seule appréciation quantitative, ils disposent d'une portion de leur production à mettre de côté pour l'épargne inférieure à celle dont disposent des pays déjà surdéveloppés, surindustrialisés. Ceci étant dit, je reviens un petit instant sur le grand problème qui s'est posé en 1973-1974. D'abord, il faudrait essayer de voir quel a été l'impact réel de cette augmentation brutale et considérable du pétrole, des phosphates et d'un certain nombre d'autres matières premières du tiers-monde sur la crise que nous connaissons dans l'ensemble du monde capitaliste depuis 2 ou 3 ans maintenant et plus spécialement sur l'inflation. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période de fin 1973 où la classe économique et politique française, comme on dit, et celle de droite, a poussé les hauts cris devant cette offensive des producteurs de pétrole et ensuite des producteurs de phosphate, etc. Ça a même donné lieu, y compris dans des hebdomadaires qui sont réputés ou qui s'auto-réputent de gauche, à des expressions de racisme anti-arabe très caractérisées, quelquefois même de véritables appels à une espèce de guerre économique pour reprendre définitivement les puits de pétrole, etc., etc. Or, les prix du pétrole, des experts de l'INSEE, Institut National de la Statistique et des Études Économiques, ont calculé à l'époque, si je me souviens bien, c'était en décembre 1973, que le doublement du prix du pétrole devait avoir comme résultat, comme conséquence sur l'ensemble des prix en France, d'une hausse de 1,2%. Sur cette base-là, et en extrapolant à l'ensemble des matières premières provenant et des produits primaires, y compris les biens de consommation, l'ensemble des exportations de grands produits en provenance du tiers-monde vers les pays développés, j'ai pu calculer que dans l'hypothèse où tous en même temps auraient vu leur prix multiplié par deux, cela aurait abouti chez nous, dans l'ensemble de nos pays développés, à une augmentation des prix de l'ordre de 2,7%. Je crois qu'on peut dire que ce qui s'est produit effectivement à fin 1973 et pendant l'année 1974 a eu au maximum une incidence de 3% sur les prix dans notre pays en particulier. Mais 3% une fois pour toutes, car les prix qui ont été augmentés pour le pétrole et les phosphates non seulement n'ont pas été augmentés par la suite, mais pour le pétrole ils ont une tendance à s'effriter, les journaux en parlent quotidiennement, c'est en particulier le cas de l'Iran et de l'Arabie Saoudite à l'heure actuelle. Quant au prix des phosphates qui avaient été multipliés par 5, ils ont été ramenés à simplement une multiplication allant de 1 à 3, entre 3 et 4, un peu plus de 3. Et les prix de la plupart des autres matières premières qui étaient montées en flèche sont revenus dans presque tous les cas à leur niveau antérieur ou à peu de choses près, ce qui est le cas en particulier du cuivre, qui est une matière première qui coûte très cher, puisque une tonne de cuivre métal semi-raffiné coûte sur le marché de Londres aujourd'hui environ 600 livres sterling à la tonne. C'est tout de même quelque chose d'assez élevé pour un métal qui est encore un métal à l'état semi-brut. La crise, par conséquent, et en particulier l'inflation, ont de toute évidence d'autres causes que l'augmentation des prix des matières premières du tiers-monde. La réalité, c'est que tout au plus, pendant cette période de fin 73, début 74, l'inflation mondiale dans le monde capitaliste a été augmentée, mettons d'environ 2,5 à 3%, 3% maximum si vous voulez, mais une fois pour toutes. Alors que notre inflation continue à monter, continue à exister mois par mois, chaque mois il y a environ 1% de plus que le mois précédent, et chaque année environ 10 à 12% de plus que l'année précédente, les prix des matières premières, par contre, depuis ces deux années, sont ou bien restés stables ou bien ont très fortement décru. Je vais vous citer le cas du cuivre, par exemple, qui est le cas le plus cité généralement, parce que c'est en effet une matière première qui est relativement coûteuse par rapport au fer, à l'aluminium, etc. Depuis 1964 jusqu'à aujourd'hui, les cours du cuivre, qui sont exprimés le plus communément d'après les cours enregistrés à la bourse des matières premières, la bourse des métaux de Londres, ont varié entre un plancher d'environ 400 livres sterling à la tonne, qu'on a rencontré dans les années, si je me souviens bien, 65, 67, 68, et puis des extrêmes qui, jusqu'à la période de 1974 dont je vous parlais, n'avaient jamais dépassé 800 livres sterling à la tonne. Pendant la période de hausse générale des prix des matières premières, le cuivre a grimpé à des prix jamais atteints d'environ 1450 livres sterling à la tonne. Mais aujourd'hui, il est depuis un certain nombre de semaines, il est autour de 600 livres sterling à la tonne. Comme la livre sterling d'aujourd'hui n'est plus la même que celle de 1964, 66, etc., qu'elle a baissé d'environ 40% de sa valeur, on peut dire que le prix du cuivre payé aux producteurs du tiers-monde aujourd'hui, en pouvoir d'achat de ce cuivre, est redevenu à ses niveaux les plus bas qu'on ait jamais enregistrés depuis 1964. Par conséquent, dans ce domaine-là, l'émotion passée de l'année 1974, on est revenu à une exploitation considérable d'une des plus importantes matières premières du tiers-monde. En ce qui concerne le pétrole, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier également, c'est que l'augmentation des prix du pétrole est intervenue dans des pays qui étaient incroyablement retardataires au point de vue du niveau des forces productives et du développement en général. Je voudrais vous donner quelques chiffres qui situent ceci. En 1970, le produit brut par habitant, c'est-à-dire l'ensemble, la valeur de l'ensemble de ce qu'un pays donné produit dans une année donnée est divisé par le nombre des habitants. Le produit national brut par habitant était au Nigeria, grand producteur africain de pétrole, de 136 dollars par an seulement. En Algérie, de 300 dollars. En Arabie Saoudite, de 440 dollars. En Irak, de 320 dollars. En Iran, de 380 dollars. En Indonésie, de 80 dollars. La même année, le produit national brut des États-Unis était de 4760 dollars et celui de la France de 3100 dollars. Par conséquent, lorsqu'on veut poser le problème en termes de pays, et je vous montrerai tout à l'heure que c'est une très mauvaise façon de le poser, on peut dire que le quadruplement du prix du pétrole est intervenu au bénéfice de pays qui connaissaient un considérable sous-développement des forces productives par rapport à celui que nous connaissions en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, etc., et même au Japon. D'autre part, les prix du pétrole, entre 1950 et 1973, fin 1973, c'est-à-dire pendant 23 ans, étaient restés rigoureusement inchangés. Nous achetions le pétrole aux producteurs de pétrole du tiers-monde jusqu'à fin 1973, exactement au même prix que 23 ans plus tôt, en 1950. Par conséquent, ce à quoi on a assisté à fin 1973, c'est tout simplement au rattrapage brutal, en une seule fois, de tout un arriéré de près d'un quart de siècle. D'autre part, à qui profitaient les bas prix du pétrole jusqu'en 1973? Eh bien, des spécialistes ont calculé que pour l'année 1972, le produit de l'ensemble des ventes du pétrole par l'ensemble des pays du tiers-monde à nos pays capitalistes développés a rapporté à ces pays producteurs environ 17 milliards de dollars. Pendant la même année, les seules recettes fiscales prélevés sur le pétrole par les pays importateurs de pétrole, et vous savez qu'en France nous payons une note assez lourde dans ce domaine-là, se sont élevés pour l'ensemble du monde capitaliste industrialisé à 28 milliards de dollars. Dans la même année 1972, la totalité des profits de l'ensemble des compagnies pétrolières s'est élevée au même chiffre de 28 milliards de dollars. C'est-à-dire que les pays utilisateurs, les pays riches, ont reçu, encaissé, sous une forme ou sur une autre, par compagnie privée ou bien par État capitaliste, un total de 56 milliards de dollars, pendant que les pays producteurs ont reçu des recettes d'exportation de 17 milliards de dollars seulement, même pas le tiers. Alors, ces chiffres, ces données de base étant données, je crois que si nous voulons comprendre un petit peu en profondeur le problème qui se pose au sujet de ce qu'on a appelé et ce qu'on appelle toujours quelquefois la bataille des matières premières, je crois que la véritable question à se poser d'abord, c'est de savoir, bataille, oui, mais bataille de qui, contre qui. Et il faut se poser à ce moment-là, à mon avis, je pense, des questions extrêmement simples et extrêmement concrètes. Le pétrole que nous achetons à l'Arabie Saoudite, c'est certain, multiplié par environ par 3 aujourd'hui par rapport à ce qu'il était en 1973. À qui profite en Arabie Saoudite le triplement du prix du pétrole? Est-ce que cela profite aux quelques 8 millions, 7 millions et demi à 8 millions d'extrêmement pauvres fellahs d'Arabie Saoudite? Ou est-ce que cela profite aux 1500 membres environ de la famille royale et à quelques féodaux d'Arabie Saoudite qui gravitent autour de la famille royale. Poser la question, vous le savez tous comme moi, c'est y répondre. Le fellah d'Arabie Saoudite n'a pas vu sa situation améliorée du moindre centime par le triplement des recettes pétrolières. Posons-nous la même question pour les phosphates du Maroc, par exemple, dont les prix ont été multipliés d'abord par 5, puis ensuite ramenés à un taux qui se situe entre 3 et 4. Est-ce que cela a profité aux mineurs de phosphates du Maroc? Est-ce que cela a profité directement ou indirectement à l'ensemble de la population extrêmement misérable du Maroc, dans les campagnes en particulier? Ayant des affinités très proches avec le Maroc, j'ai voulu sur ce plan-là me renseigner auprès de gens qui pouvaient me dire des choses très exactes et que je connais. Je puis vous affirmer que les mineurs de phosphate du Maroc n'ont en rien profité, même pas les miettes, du quintuplement du prix des phosphates, et que l'ensemble de la population laborieuse du Maroc, et en particulier les masses rurales déshéritées, n'en ont profité en rien. Qu'est-ce qui en a profité, étant donné que les phosphates du Maroc sont propriété d'État? C'est le budget de Sa Majesté Hassan II, et qui s'en sert pour les besoins d'Hassan II et de toute une caste féodale et de toute une bourgeoisie nationale marocaine qui s'est constituée, mais la population, l'immense population marocaine, mais je dis immense parce qu'elle a cru dans des proportions fantastiques depuis quelques années, des travailleurs marocains n'en a profité en rien. Alors il faut maintenant nous poser la question inverse. Dans les pays utilisateurs du pétrole et de ses matières premières, qui a pâti du haut de l'élévation des prix multipliés par 3, par 4, par 5, etc.? En ce qui concerne le pétrole, qui finalement a payé le surcroît de notes que nous devions payer en tant que pays? Vous savez que l'État a maintenu intégralement sa pression fiscale sur les produits pétroliers. Que les compagnies pétrolières, ça a fait l'objet d'une affaire qui a été qualifiée de scandale du reste et qui a conduit le gouvernement français à modifier un certain nombre de règles fiscales sur les profits des sociétés pétrolières, que les sociétés pétrolières en France et ailleurs non seulement ont conservé leurs bénéfices antérieurs, leurs 28 milliards de 1972, mais que ces bénéfices se sont accrus dans des proportions fantastiques, puisque en gros, très grossièrement, leurs profits, leur marge est calculée sur la valeur du produit, et comme le produit importé en ce qui concerne le pétrole a été multiplié par 3, leur marge aussi a été en valeur absolue multipliée par 3. Par conséquent, qu'est-ce qui paye la note qu'il faut payer chez nous? Ce sont finalement, et comme toujours, les consommateurs. Ce sont les consommateurs de fuel domestique quand ils, pour ceux qui utilisent le fuel pour se chauffer. Ce sont les consommateurs d'essence pour les automobiles lorsqu'il y a automobile, et c'est le cas général. Ce sont les consommateurs pour le fuel industriel, car l'augmentation des prix payés par les industriels est répercutée dans le produit final. Par conséquent, lorsqu'on se livre à une analyse non plus sous terme de pays, comme on nous incite trop souvent à le faire et qui est un terme trompeur, mais en termes de classe, on s'aperçoit que ceux qui ont profité des augmentations de prix dans les pays du tiers-monde sont des classes dirigeantes qui détiennent le pouvoir d'État, qui l'exercent dans un certain sens et qui profitent eux-mêmes de l'exploitation de leurs propres travailleurs, ces travailleurs n'ayant en rien profité de l'amélioration des prix des matières premières. Et que dans les pays développés, ceux qui payent la note, ce sont également les travailleurs de ces pays-là. Alors, poursuivons un petit peu cette analyse de classe. Victor Leduc m'a marqué que je ne dois parler que jusqu'à 20h15. Poursuivons un peu cette analyse de classe pour essayer d'aller un peu plus en profondeur dans la réalité des choses. Quelles sont les classes au pouvoir dans les pays du tiers-monde? Dans, on peut dire, tous les pays d'Amérique latine, ou à peu près tous, sauf quelques très petits pays de l'Amérique centrale, il s'agit de véritables bourgeoisies nationales, au sens marxiste du terme, c'est-à-dire des bourgeoisies possesseurs de capital, investies dans des entreprises privées pour y produire du profit, rapporter des bénéfices et participer là sur place à une accumulation capitalistique de capital. Qu'il s'agisse du Brésil, de l'Argentine, du Chili, du Venezuela ou de tous les autres pays importants d'Amérique latine, il existe de véritables bourgeoisies nationales qui n'ont peut-être pas encore les dimensions qu'ont celles de France, de Grande-Bretagne et d'Allemagne, mais qui, en essence, sont exactement les mêmes et de même type. Dans toutes sortes d'autres pays du tiers-monde, il existe des situations un petit peu plus ambiguës. On ne peut pas encore parler, à proprement parler, d'une bourgeoisie nationale au sens que je viens d'indiquer, mais le pouvoir politique, administratif, militaire, etc., est détenu en général par des castes ou couches privilégiées, parfois d'origine militaire, parfois à base commerçante, féodale encore comme en Arabie Saoudite par exemple, ou des classes de caractère bureaucratique comme en Algérie par exemple, quoique l'Algérie est un cas un petit peu limite, et que c'est le cas également dans la plupart des pays du sud-est asiatique ou d'Indonésie, et c'est le cas presque partout en Afrique. Eh bien, ces couches ou castes privilégiées, depuis le temps qu'elles existent, car les indépendances, sauf celles de l'Angola, ne sont pas récentes, ces couches ou castes privilégiées ont montré par l'expérience qu'elles s'accommodaient fort bien de la substitution du néocolonialisme au colonialisme, c'est-à-dire de la perpétuation chez eux de l'exploitation impérialiste, et s'en accommodait d'autant mieux que dans la presque totalité des cas, l'impérialisme était le garant de leur pouvoir, l'impérialisme était ce qui leur permettait de se maintenir au pouvoir contre des contestations qui étaient certes inégales en qualité et en intensité selon les pays du tiers-monde, mais qui existaient un peu partout. Ces classes, par conséquent, qui dirigeantes dans les pays du tiers-monde, qu'il s'agisse de bourgeoisie nationale comme en Amérique latine et dans certains pays, bourgeoisie nationale en formation, on peut dire même déjà constituée comme au Maroc, où elle existe vraiment, ou qu'il s'agisse de classes ou couches dirigeantes d'origine féodale, bureaucratique, militaire, commerçante, etc., ont vécu parfaitement, pacifiquement, en symbiose avec le système impérialiste, et on peut dire même, c'est l'analyse que fait Samir Amin et que je fais moi-même également, on peut dire qu'il existe une véritable bourgeoisie à l'échelle mondiale qui est constituée certainement en tête, ayant à sa tête la bourgeoisie monopoliste des grandes puissances impérialistes que j'ai nommée tout à l'heure, et en qualité d'associés mineurs pour l'instant, ces bourgeoisies nationales des pays du tiers-monde ou ces couches ou classes dirigées dans la plupart des pays du tiers-monde. Ces classes se maintiennent au pouvoir par ce qu'elles profitent de l'exploitation de leur propre population. Lorsqu'il s'agit de bourgeoisie nationale comme en Amérique latine, elles en profitent parce que ces bourgeoisies nationales qui possèdent du capital font fructifier ce capital par l'exploitation du travail salarié ou du travail paysan, et elles en profitent très directement de la même façon que les Rothschild, les Dassault en France profitent de l'exploitation, ou les Pechinet, etc., profitent de l'exploitation du travail salarié des travailleurs français. Ou bien elles en profitent par de façon un petit peu plus indirecte dans les pays d'Afrique en particulier, plus précisément grâce à l'intervention de l'aide économique et financière. Car l'aide économique et financière, je n'ai pas le temps de vous détailler ça maintenant, mais elle a parmi ses objectifs essentiels et ses résultats essentiels de donner aux couches ou classes dirigeantes en question les moyens directs ou indirects de se maintenir au pouvoir. Premièrement, elles les enrichissent, elles leur permettent deuxièmement de financer des polices et des armées locales qui sont des armées de lutte de classe, des armées destinées à contenir, à dissuader ou à contenir au besoin les contestations ou les mouvements révolutionnaires dans leur propre pays. Et ils savent très bien, au demeurant, que lorsque les cas deviennent plus graves, les puissances capitalistes anciennes colonisatrices ou d'autres sont toujours prêtes à intervenir, comme les États-Unis sont intervenus au Vietnam, Comme la France est intervenue avec ses parachutistes à deux reprises, au Gabon d'abord, au Tchad ensuite, etc., etc. Par conséquent, il y a véritablement des liens extrêmement étroits entre la bourgeoisie centrale des pays industrialisés et les bourgeoisies associées des pays du tiers-monde, cet ensemble formant ce qu'on peut très légitimement appeler la bourgeoisie à l'échelle mondiale. Puisqu'il y a une bourgeoisie à l'échelle mondiale, il est probable qu'il y a également un prolétariat à l'échelle mondiale. Eh bien, en effet, je ne veux pas aller trop longuement à l'intérieur de ce développement, mais enfin, il tombe sous le sens que lorsque le trust pechinais, par exemple, a des exploitations de bauxite ou de fabrication d'alumine et même de métallurgie en Afrique, je vise l'entreprise Alucam au Cameroun, il extorque à ses travailleurs une plus-value exactement comme il extorque une plus-value de même type, de même essence, aux travailleurs de son usine de Noguère, par exemple, qui a mené une grève exemplaire il y a environ 2 ans dans les Pyrénées-Atlantiques, ou aux travailleurs de ces mines en France, ou de toutes ces usines de transformation d'aluminium en France. C'est la même exploitation, par les mêmes et dans les mêmes formes. Il est certain que l'exploitation des travailleurs ruraux, qui par exemple qui sont des planteurs d'arachides ou de coton dans les pays de l'Afrique occidentale, est finalement de même type et au bénéfice du même système impérialiste que l'exploitation des travailleurs qui, en Europe, transforment ces arachides en huile ou en produits contenant de l'huile et transforment ce coton en tissu ou en vêtements de toutes sortes. Par conséquent, on peut dire que de la même façon qu'il existe une bourgeoisie mondiale, il existe un prolétariat mondial qui malheureusement ne sent pas encore aujourd'hui subjectivement cette identité, cette unicité du prolétariat mondial, mais qui objectivement constitue vraiment un prolétariat mondial. Et je crois que la preuve la plus flagrante nous en est administrée, ce qui est arrivé je ne sais combien de fois ces années dernières, lorsque le système transforme en l'espace de 15 jours un travailleur africain, ou un chômeur africain, ou un paysan africain, en un gars qui est en un travailleur africain immigré en Europe, en France, en Allemagne ou ailleurs, sur une chaîne de montage dans une usine d'automobile ou ailleurs, eh bien, il déplace simplement un travailleur qui était à son service, à un poste de travail et d'exploitation donné en Afrique, dans un autre poste de travail et d'exploitation donné en Europe, mais toujours au bénéfice du même système, car les exploiteurs sont les mêmes, les bourgeoisies nationales aux couches dirigeantes dans les pays du tiers-monde, prenant une part de cette exploitation, mais la plus grosse part, continuant d'aller à ceux qui détiennent le capital dans les grandes métropoles, New York, Londres, Paris, etc. Par conséquent, les contradictions qui ont agité le monde en 1973, en 1974 et qui l'agitent encore aujourd'hui. Contradictions qui s'expriment en 1976 dans le cadre de cette fameuse grande conférence Nord-Sud à l'instigation, nous dit-on, de M. Giscard d'Estaing et qui se propose rien de moins, d'après ce qu'on nous dit, que d'établir un nouvel ordre économique mondial. Posons-nous la question de savoir qu'est-ce que signifie ce grand remue-ménage. Et finalement, je reviens à ma question, car il y a tout de même conflit, bataille, disent certains, bataille de qui contre qui. Eh bien, d'après ce que je viens de dire, je crois qu'il résulte assez clairement qu'il s'agit d'un conflit, d'une rivalité, mais interne à la bourgeoisie mondiale, une rivalité entre les divers composants de cette bourgeoisie mondiale. Les bourgeoisies nationales au pouvoir en Amérique, dans tous les pays d'Amérique latine. Ces couches ou classes privilégiées dont j'ai parlé pour tout ce qui concerne l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, etc. Mon Dieu, depuis pas mal d'années qu'elles existent maintenant, ont compris un petit peu ce qui se passe et elles ont compris que les miettes du gâteau qu'on laissait à leur disposition étaient vraiment trop petites et trop peu nombreuses. Et ce qu'elles réclament aujourd'hui, tout simplement, c'est que le gâteau soit partagé de façon un petit peu moins inégale, qu'il y en ait un peu moins pour le grand capital et les grands États capitalistes du centre impérialiste, et un petit peu plus pour les oligarchies des pays dirigeantes, des pays du tiers-monde.